pour histoire, un travail intellectuel, un travail sur les idées. C'est pas seulement la cupidité et la stupidité de la cupidité qui entraîne ça. Il y a un travail très long et une parfaite connaissance de l'adversaire, c'est-à-dire cette grande Bretagne social-démocrate, keynésienne, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent bien leurs adversaires. On dit que je suis tombé sur cette citation de Margaret Thatcher qui disait « Les marxistes se lèvent très tôt pour défendre leurs idées, il faut qu'on se lève encore plus tôt.
» Oui, tout à fait. Il y a chez eux une fascination pour ce qu'ils considèrent comme étant l'hégémonie du marxisme sur une partie des intellectuels dans la période de l'après-guerre en Grande-Bretagne. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est construire une contre-hégémonie néolibérale, mais qui a beaucoup de ressemblances aussi avec leurs adversaires. C'est-à-dire, on peut parler de groupements, d'aspirations utopistes. Le néolibéralisme qui a inspiré Margaret Thatcher est un néolibéralisme utopique. Ils veulent une utopie de marché. Ils veulent créer une société où, enfin, la main invisible du marché sera totalement libre des contraintes étatiques et syndicales.
C'est ça, c'est-à-dire le succès de la propagande thatchérienne, ça a été de dire « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, Tina », alors qu'effectivement, ils savaient parfaitement qu'il y en avait une.
Oui,
c'est contre cette alternative qu'ils luttent, qu'ils déploient tout leur talent, ce qu'il faut bien appeler leur talent, c'est classe contre classe, utopie contre utopie, et cette utopie s'installe et triomphe. Pourquoi est-ce que le camp d'en face, qu'on vient de décrire, social-démocratie, keynésien, avec des éléments de marxisme dedans, comment expliquer ce recul et cette défaite, finalement, de ce monde-là?
Je pense qu'il y a, là encore, qu'il y a sans doute plusieurs éléments. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, mais je serais tenté de dire que dans ce cas-là, la Grande-Bretagne n'est pas très différente de la France. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, il y avait ce que moi j'ai souvent décrit comme une arrogance de gauche, qui considérait que les idées c'était elles, et qu'en face c'était des brutes épaisses, en gros. Qui prenaient pas au sérieux le travail intellectuel de l'adversaire. Et je pense qu'en Grande-Bretagne en particulier, on a perdu du temps pendant que le camp néolibéral s'organisait, diffusait ses idées, etc. Parce qu'il y avait ce préjugé que, en gros, intellectuel et de droite, ça ne pouvait pas aller ensemble. Et il y a une sous-estimation dans la gauche britannique par rapport au travail formidable d'élaboration intellectuelle qui est en train de se passer du côté... pas seulement des petites mains du néolibéralisme, je veux dire les diffuseurs, les vecteurs de l'idée néolibérale, mais de Hayek, par exemple, lui-même, qui est un formidable producteur d'idées. Bon, voilà. Donc il y a une sous-estimation, je pense, de la gauche par rapport à l'adversaire, mais il y a aussi, il faut le dire, un deuxième élément, c'est que les travaillistes au pouvoir, la social-démocratie d'inspiration keynésienne au pouvoir, autant on peut dire qu'entre 45 et 51, réussit à transformer la Grande-Bretagne, au moins à améliorer de manière sensible les conditions de vie et d'existence de la majorité de la population. Je pense au service national de santé, il est évident que c'est un bienfait et un progrès par rapport à la situation d'avant. En Grande-Bretagne. Autant entre 64 et 70, lorsque les travaillistes sont au pouvoir, on n'a pas ce souffle. Les travaillistes sont en difficulté. Les travaillistes en anglais, on dit « don't deliver the goods ». Les travaillistes n'arrivent pas à répondre à l'attente de la population. Le keynésianisme plutôt centriste est en crise. Et surtout, les travaillistes ont peur de s'associer à l'aile la plus active et la plus radicale du mouvement ouvrier organisé. Les travaillistes, finalement, ont presque autant peur, lorsqu'ils sont au pouvoir, des syndicats combattants que les conservateurs qui veulent les suivre. Et ça va perdre le Parti travailliste dans les années 70. Ils perdent le contact, et ça doit vous dire quelque chose aussi par rapport à la France d'aujourd'hui, ils perdent le contact, quelque part, avec ceux qui sont les plus agissants dans le mouvement ouvrier, en défense des intérêts ouvriers.